France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je reçois Marie Nimier, une romancière qui aime écrire des chansons. Elle en a signé pour Jean Guidoni, Juliette Gréco, Morane, Enzo et même Johnny Hallyday. Marie Nimier aime aussi conjuguer littérature et spectacle sous toutes ses formes. Elle travaille avec les danseurs, les chorales et même sur les vitrines des magasins. On la retrouve dans quelques minutes. En fin d'émission, petit tour d'horizon des opérettes de l'été. Mais avant toute chose, on parle beaucoup d'elle en ce moment. Salut à la nouvelle Première Dame de France et à toutes les Brigitte.
Babylone 21 à 29, voulez-vous me passer Brigitte?
Ah, c'est une erreur, il n'y a pas de Brigitte ici.
Babylone 21 à 29, je voudrais parler à Brigitte.
Ah, c'est une erreur, il n'y a pas de Brigitte ici.
Quería hablar con la señorita Brigitta.
Nada, Brigitta, ici, señor.
Dites, c'est Rodolphe, je voudrais seulement parler à Brigitte.
Mais il n'y a pas plus de Brigitte que de... C'est ça, au plaisir. Hein.
Je voudrais lui dire un mot.
Eh ben, vous savez ce que je vous dis, à vous, je vous dis.
Ici c'est Brigitte, il n'y a pas de message pour moi.
Et vos oreilles avisées auront peut-être reconnu la voix de Jean-Yann et aussi celle d'Henri Salvador dans cette chanson de 1960. Allô Brigitte? Ah ben non, c'était pas Brigitte Macron, c'était Brigitte Bardot, la grande vedette de l'époque. Il paraît d'ailleurs que le numéro Babylone 2129, c'était le numéro de la maison de disques Fontana, où du coup on téléphonait des quantités de groupies de Brigitte Bardot après avoir entendu cette chanson de Georges Lieferman et Norman Maine, pseudonyme d'ailleurs du compositeur français André Cazeneuve. Je tiens tous ces précieux renseignements de mon ami Serge Laïc, qu'il en soit remercié.
Thank you.
J'adore ce mélange du piano de Jacques Morino et de l'accordéon de Louis Ferrari dans cette belle valse intitulée Flâneuse. C'était en mars 1947. Si d'ailleurs vous voulez entendre des mélanges de piano, d'accordéon et beaucoup d'autres encore, je vous le rappelle, le samedi 24 juin sur France Musique en direct et au studio 105 de Radio France, on fêtera les 90 ans de Marcel Azzola avec tous ses amis. Vous êtes bienvenus. Il reste, je pense, encore des places, mais vous vous dépêchez. Allez sur le site de France Musique de l'émission Étonnez-moi Benoît pour réserver si vous voulez donc venir participer avec nous à l'anniversaire de Marcel Azzola le 24 juin à 11h.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Mais pour l'heure, nous allons retrouver mon invitée qui arrive tout juste du Havre où elle participe avec beaucoup d'autres écrivains aux 500 ans de la ville. Et puis son dernier livre, La Plage, vient de paraître en folio après beaucoup d'autres comme La Reine du Silence. Et il se trouve qu'elle adore aussi le spectacle sous toutes ses formes, le théâtre, la danse, les chœurs et surtout la chanson. Elle en a écrit des quantités pour quelques-uns des meilleurs chanteurs d'aujourd'hui. C'est cela que nous allons tenter de vous raconter aujourd'hui en compagnie de Marie Nimier.
Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans l'air. Y a un changement dans l'atmosphère, un truc qui vient trois fois rien. Ils ont détraqué quelque chose, ils ont dû forcer sur la dose. Je m'entends chanter, je me vois danser. Je me sens bien, tu te sens bien, c'est inquiétant. Qu'est-ce qui nous prend? Je me sens bien, non, non. J'arrive pas à trouver sa louche, je marche au plafond, tu veux l'avion. À moins que ce soit, ça serait bizarre. Ce produit contre le cafard, insecticide, effet rapide. Je me sens bien, tu te sens bien, c'est inquiétant. Qu'est-ce qui nous prend? Je me sens bien, néné. Je me reconnais pas, c'est pas plus mal. Le malheur, ce serait pas fatal. Y'a rien qui presse, question détresse. À moins que ce soit, ça serait bizarre. Ce produit contre le cafard, insecticide, effet rapide. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans l'air. Y'a un changement dans l'atmosphère, un truc qui vient trois fois rien. Ils ont détraqué quelque chose, ils ont dû forcer sur la dose. Je m'entends chanter, je me vois danser. Je me sens bien, tu te sens bien, c'est inquiétant. Qu'est-ce qui nous prend? Je me sens bien, tu te sens bien, on est content. Qu'est-ce qui nous prend? Je me sens bien, yeah.
Bonjour Marie Nimier.
Bonjour, vous vous sentez bien?
J'allais vous poser la question.
Je vous ai grillé.
Piégée, hein. En ce moment, ça va, c'est vrai?
Mais oui, ça va bien, mais oui, je rentre du Havre, il fait beau, je suis avec vous, ça va bien.
Mais oui, non, mais en plus de ça, vous m'avez toujours donné l'impression d'être une personne qui se sent bien, je ne sais pas, c'est dans votre façon d'être, de vous porter, dans votre visage, dans votre regard, même s'il y a beaucoup de mélancolie chez vous, on le découvre quand on vous lit, mais... Qu'est-ce qu'il emporte ?
C'est vrai que dans cette chanson, ça dit tout. C'est-à-dire, je me sens bien. Qu'est-ce qui me prend, quoi? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un peu contre nature pour moi. Pourtant, je suis d'un naturel à la fois heureux et terriblement angoissé et triste.
Donc, c'est un effort permanent de se sentir bien.
Non. C'est qu'est-ce qui nous prend? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous prend et c'est ce qui nous prend, c'est d'être là au présent, d'entendre une chanson qui me plaît, qui me met en joie. Et
voilà. Alors, c'était la voix de Morane. Hein, on l'a reconnue. Cette chanson que vous avez co-écrite d'ailleurs, hein, comme souvent.
Avec Thierry Ilouz, c'est un de mes grands partenaires d'écriture. Parce que pour moi, écrire des chansons, c'est un peu sortir de la solitude, du roman, vous connaissez ça.
Ouais.
C'est-à-dire le roman, c'est vraiment, on est pendant des mois, parfois des années, fenêtres fermées, je dirais presque volets fermés contre le mur, hein, pas le dos au mur, mais presque, avec ce temps du roman qui est long. Et le moment de l'écriture de la chanson, c'est c'est le moment de l'éphémère, c'est le moment de la rapidité, de l'ouverture de fenêtres, de...
Mais sauf que vous, cette façon collective de travailler dans la chanson, c'est plus avec d'autres auteurs qu'avec les chanteurs eux-mêmes en direct.
J'aimerais bien que ce soit plus souvent avec les chanteurs, mais la vie musicale aujourd'hui fait que souvent on nous demande des chansons alors qu'on connaît même pas les chanteurs, on connaît leur voix évidemment.
Vous aimez Morane, mais c'est pas une proche.
Pas du tout, je l'ai croisée une fois et pourtant nous avons écrit plusieurs chansons pour elle. Oui. Voilà, c'est-à-dire que les chansons vivent leur vie comme des objets quand elles sont maquettées, elles vivent leur vie et donc si je veux avoir un échange, comme le travail avec les musiciens, c'est pas évident non plus. Ah, et ben alors je travaille avec d'autres auteurs et je me régale.
Ben, on va y revenir d'ailleurs, mais en tout cas c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, parce que je vous ai connu à la fin des années 80 et comme vraiment une romancière avant tout. J'imaginais même pas qu'il y avait tellement d'autres choses importantes pour vous. Et puis c'est seulement ensuite que j'ai découvert que d'abord vous aviez eu toute une autre vie avant dans le domaine du spectacle et que cette vie-là, on dirait depuis les années 2000 à peu près, a à nouveau pris énormément d'importance pour vous après cette parenthèse plus purement romanesque. Est-ce que c'est à peu près ça,
oui, le parcours? Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est un peu le privilège de l'âge, enfin de vieillir. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se réunit en vous et que toutes ces choses, j'avais un peu claqué la porte, jouer, chanter, écrire des chansons, tout ça, je pouvais plus le faire. Je n'avais plus l'énergie pour le faire. J'avais besoin de m'enfermer. J'avais besoin d'être dans le silence. Et puis, tout d'un coup, cette jeunesse est revenue.
Oui, mais de façon très active. Vous avez écrit des dizaines de chansons depuis 2002-2003.
Ouais, beaucoup de chansons pour des gens très très différents.
Et des spectacles, on va en reparler puisqu'on est là pour ça, mais on va d'abord commencer par remonter, je crois, dans vos toutes jeunes années, encore que je ne pense pas que vous étiez née au temps d'Yvette Guilbert.
Le fiacre par Yvette Guilbert. Fiacrale trottino qu'a eu dia sa plat. Un fiacrale trottino jaune avec un cocher blanc. Derrière les stores baissés qu'a eu dia sa plat. Derrière les stores baissés on entendit des baisers. Et puis une voix disant Léon qu'a eu dia oh là. Puis une voix disant « Léon, mais tu me fais mal, ô ton lorgnon. » Un vieux monsieur qui passait, qu'a eu dia hop là. Un vieux monsieur qui passait, s'écrit « Mais on dirait que c'est ma femme dont j'entends la voix, qu'a eu dia hop là. Ma femme dont j'entends la voix, il se lance sur le pavé en voix. » Mais il glisse sur le sol mouillé, quinca, il dit hop là, mais il glisse sur le sol mouillé, crac, il est escrabouillé. Du fiacre une dame sort et dit, quinca, il dit hop là, du fiacre une dame sort et dit, oh chouette Léon, c'est mon mari. Y'a plus besoin de nous cacher, quinca, il dit hop là, y'a plus besoin de nous cacher, oh donne donc 100 sous à se cocher.
Yvette Guilbert, en 1934, alors je confirme Marie Nier, je crois que même vos parents étaient encore des petits-enfants quand elle a enregistré cette chanson, mais c'est quelque chose qui ravive pour vous des souvenirs?
Oui, en fait, il y avait un album à la maison, alors peut-être vous l'avez connu, en tout cas je suis sûre que les auditeurs l'ont connu, ça s'appelait Chansons idiotes, c'était des reprises, vous l'avez connu, alors il y avait trois médaillons avec les portraits des chanteurs, probablement avec une espèce de volute là sur du violet.
C'est que c'était un genre en fait, la chanson idiote.
La chanson idiote, voilà. Alors formidable chanson idiote, je crois qu'il y avait tel qu'il est, il me plaît, il y a la môme caoutchouc, le tango stupéfiant, tout ça, ça a baigné.
Il y a
baigné,
un qui est dans ma rue, les petits pois peut-être, des choses
alors,
comme ça.
Ah oui, voilà. Et donc ça nous faisait beaucoup rire, presque autant que Fernand Reynaud quand on était petit. Voilà. Et ça, c'était les soirées de Noël qui étaient bercées par ce genre de musique. Et puis venait après Bobby Lapointe, mais c'est venu un peu plus tard, et peut-être aussi certaines chansons de Boris Vian que je peux associer aussi à ces chansons-là.
Donc c'est plutôt une atmosphère de chansons légères là qui vous a accompagné, de chansons drôles, de chansons fantaisistes,
voilà. Oui, j'ai j'ai voulu garder ce souvenir-là, oui.
Voilà. Alors, je rappelle, hein, vous êtes de la fille de Roger Nimier, auquel vous avez consacré un très beau livre, La Reine du Silence. Je ne sais pas, d'ailleurs, il y a des écrivains qui sont totalement allergiques ou étrangers à la musique. Je ne sais pas quel était le cas de Nimier. On sait que vous l'avez très peu connu, puisque vous aviez 5 ans quand il est mort. Mais vous avez
quand il est mort, c'est joli. Pardon. Non, mais c'est pas grave. Il est mort, et en effet, il est mort sans me laisser l'information de savoir quelle était sa relation avec la musique.
Avec la musique. Et votre mère, Nadine, qui nous écoute peut-être, qui donc vous a fait découvrir toutes ces chansons légères. En tout cas, il s'est produit quelque chose, parce que très jeune, vous avez eu envie de vous produire dans des spectacles où on jouait et où on chantait aussi.
Oui, mais alors là, je pense qu'il faut dire qu'on est, bon, on est l'enfant de ses parents, mais aussi, et très fortement, on est l'enfant d'une génération.
Ouais.
Et c'est peut-être ça, on n'en parle pas assez quand on se présente soi-même ou quand on vous interroge sur vos c'est parents, vrai, votre enfance. Vrai. Mais moi, je suis pur produit post-68 art, années 70, baba cool, hippie, etc. Oui, marcher papier nu dans la bien. Rue. Et quand c'est papier nu, c'est en sabots qui claquent. Et donc, moi, à 15 ans, je suis partie avec le cirque, quoi. C'est-à-dire que...
C'était le grand Magic Circus, ces images-là aussi.
Oui, absolument. En fait, oui. Je suis partie dans une troupe de théâtre de rue qui s'appelait le Palais des Merveilles. Je suis tombée malade et ma mère a réussi à me récupérer pour que je puisse aller jusqu'au baccalauréat et que je...
Ah, voilà. Vous étiez prête à tout lâcher à ce moment-là.
Ah oui. C'était jouer dans la rue, c'était partir avec rien, c'était l'idée de cette contact direct du théâtre, de la magie dans la rue, de la magie créée, de l'instant.
Et vous jouiez, vous chantiez aussi.
Après, continuant à faire du théâtre de rue, j'ai appris quelque chose quand même, parce que j'aime bien faire quelque chose. Et donc, il y avait ce petit accordéon diatonique qui n'était pas... J'avais aucune formation musicale, donc c'était quelque chose de plutôt facile à jouer. Enfin, voilà. Je jouais approximativement, on va dire. Et je me suis mise... Ça s'est fait, quoi. J'ai chanté dans la rue avec un groupe qui s'appelait Les Inconsolables.
Voilà, ça c'était votre groupe déjà.
Oui, voilà, ça c'était peut-être plus tard. Alors avant ça, je suis allée aux États-Unis. Ah, les Morozov, ça c'était parce que j'étais inscrite à la fac de Vincennes et c'était du théâtre. C'est la création de collectifs, théâtre.
Voilà,
on parlait de tous les grands sujets de l'époque, l'enfermement, aussi bien la prison que l'enfermement psychiatrique, la folie, question féministe, les grands sujets de société.
Vous êtes laissé entraîner effectivement dans ce mouvement de l'époque, qui était un peu le mien aussi.
C'est vrai que quand je jouais de l'accordéon, moi j'avais cette idée que je pouvais avec ma petite valise faire le tour du monde, j'avais besoin de rien, il y avait cette espèce d'envie de ne pas être liée à cette société.
Et vous êtes partie donc aux États-Unis.
Alors, quand je suis partie aux États-Unis, je ne suis pas partie tout à fait avec rien, parce que je suis partie avec une des amies du Palais des Merveilles, un des piliers du Palais des Merveilles, et on a fondé notre troupe de théâtre de rue toujours là-bas, avec cette idée de par la chanson, toujours quand même basée sur la musique, créer des événements. On jouait en personnage, avec des personnages extravagants.
Ça a été très marquant pour vous, ce séjour américain?
Ça a été très marquant. J'ai failli un peu y laisser ma peau, parce que c'était... C'était très prenant, quoi. C'est-à-dire que quand on arrive dans un pays qui n'est pas votre pays et que le seul contact qu'on a avec les gens, très déshabillé dans la rue à chanter et à faire de la musique, c'est, faut être solide. Je crois que j'avais pas du tout cette solidité-là. Donc, je suis revenue un peu en mauvais état. Et c'est ce mauvais état qui m'a permis de passer une petite année à la Bibliothèque nationale pour me reconstituer et commencer à écrire.
Vous voulez regarder comment les musiciens de rue aujourd'hui qui se multiplient dans les rues de toutes les villes au beau jour?
Comment je les regarde? Je les écoute s'ils sont bons. Ouais. J'aime bien, oui. Je trouve ça très touchant, oui, la musique dans la rue. Ouais.
Mais alors, si vous étiez en plein post-68, plus Rolling Stone que Beatles, d'ailleurs, je crois.
Non, moi, alors, curieusement, j'étais plutôt Beatles.
Ah, plutôt Beatles.
Ouais, ouais.
Mais bon, tout ça, bref, vous étiez quand même très loin des yéyés français, de alors, ce qu'écoutaient les petites jeunes filles qui aimaient Sheila.
J'aimais Sheila, mais très petite.
Et France Gall. Plus petite.
Plus petite. Lors de la sortie, tout ça, je me souviens l'avoir chanté, en effet, en sortant de l'école.
Et alors, comment vous vous êtes retrouvée à écrire en 2006 une chanson pour Sheila?
J'en ai même écrit deux avec Clarica. C'est Clarica qui m'a sollicité
pour écrire
avec...
Clarica, une de vos amies, artiste, chanteuse et partenaire d'écriture.
Et c'est Didier Varro qui est le loup qui nous a incité à faire ça. Qui voulait faire un album de nouvelles chansons pour Sheila.
quand le monde est trop lourd, quand les hommes sont sourds, quelque chose qui brille sous les regards des filles, mais qui ne se dit pas, il y a du bleu parfois. Moi, je sais, sous le phare, il y a mes rêves enfouis qui, tôt ou tard, dans leurs yeux prendront vie. Sous le regard des filles, je dépose les armes et je sèche mes larmes. Mon cœur se déshabille sous le regard des filles. Je me sens à l'abri, j'aime ce que je suis. Moi, je sais, sous le phare, il y a mes rêves enfouis qui, tôt ou tard, dans leurs yeux prendront vie. Je sais, sous le regard des filles, sous le regard des filles, il y a 36 chandelles sous plis confidentiels, mes paupières scintillent. Sous le regard des filles, aujourd'hui et demain, je desserre les poings. Moi, je sais.
Sheila, donc avec cette chanson Sous le regard des filles que vous avez écrite avec Clarica et mise en musique par Jean-Jacques Nissen. Marine Mie, vous avez rencontré Sheila là pour le coup?
Oui, je l'ai rencontrée au Cabaret Sauvage quand elle a interprété ces deux chansons. Ouais. Elle fait un tour de chant, mais je ne l'avais pas rencontrée avant.
Mais c'est bien de voir que Sheila aussi ça fait des chansons d'écrivain. D'une certaine... Enfin, je ne sais pas si ça existe, la chanson
oui,
d'écrivain
puis,
après tout.
J'étais étonnée parce que c'est vrai que j'avais un peu quitté l'ambiance Sheila depuis longtemps. Et j'ai trouvé une femme qui chantait très bien et qui était très émouvante. Et sur cette chanson, sur scène par exemple, c'était vraiment émouvant. En vrai, c'était bien loin de l'image que j'avais enfantine
de
finalement.
De petite fille
de cette femme,
écoutant
évidemment
les tubes de Sheila. Comment ça se passe concrètement d'écrire une chanson à deux, par exemple avec Clarica, comment vous faites?
Alors, il y a un des deux écrivains qui commence à écrire. D'abord, on se met d'accord sur une idée.
C'est quoi une idée de chanson?
Un mot, parfois un sentiment. Hein, la honte, le plaisir de se promener au bord de l'eau, enfin une situation, un jeu de mots ou en tout cas des mots qui jouent ensemble, des allitérations par exemple. Enfin, il y a plein de
c'est
plein
un point de départ.
Un point de
ça
départ
peut être
comme
très,
ça.
Très divers.
Très divers. Il y en a un qui commence à écrire et quand il bloque, il l'envoie à l'autre. Moi, c'est ça ma technique. C'est-à-dire que on ne s'embête pas. Quand on n'en sait plus comment faire, au bout d'une heure,
l'autre
quand on n'a pas trouvé, l'autre prend le relais. Et l'autre, enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai toujours travaillé, que j'adore travailler, c'est qu'il n'y a aucun ego. C'est-à-dire que l'autre peut complètement changer ce qui a été fait. Alors après, si on regrette, on peut dire « Ah ben tiens, je regrette tel mot, pour moi il était important. » Mais il n'y a pas de négociation. C'est comme si on était avec la même encre. Et bon, le plus souvent, ça se passe quand même par Internet. En plus, comme je n'habite pas à Paris, on n'est souvent pas dans les mêmes villes avec les personnes avec qui j'écris. Et puis après, si peut-être pour vraiment boucler la chanson, souvent on se voit. Parce que le truc de la chanson, c'est que c'est assez facile d'avoir trois phrases de refrain ou d'avoir un premier couplet, mais trois minutes, mine de rien, il faut les écrire. Et c'est là où en général, la plupart des gens bloquent. Parce qu'ils ont des bonnes idées, mais ils n'arrivent pas à accomplir.
Et puis parfois, les écrivains qui font des chansons ont le tort inverse, qui est de faire des chansons trop longues, qui sont des trop grands textes, qui sont trop développés.
Mais ça peut être aussi un style. Ça peut être très très bien sur scène, par exemple. Daniel Lavoie, on avait écrit une chanson autour d'Ulysse avec Jean Rouault. Je ne sais plus, elle durait 7 minutes ou 13 minutes, il la faisait, c'était un morceau de bravoure sur scène. Après, sur disque, c'est plus difficile.
Marie Nimier, je vois qu'après votre voyage aux États-Unis de toute jeune fille, vous avez chanté dans une comédie musicale au théâtre du Ranelagh. C'était quoi ça?
C'était From Harlem to Broadway, et c'était, je chantais des standards.
Des grands standards.
Hein. Ouais. Ouais. Puis je faisais semblant de faire des claquettes, parce qu'en fait c'était un spectacle de claquettes.
Vous aviez appris à chanter aussi?
J'étais en collant résis, machin, truc. Non, j'ai jamais vraiment appris, mais
C'était l'école de la rue, là.
J'ai appris, mais moi, je n'ai jamais trouvé que je chantais bien, hein. Mais bon.
Mais bon, vous l'avez fait quand même. Tiens, soyons justement encore un peu franco-américains, vous m'avez fait découvrir un étonnant enregistrement de Louise Bourgeois.
Ah oui, ah, ça c'est une de mes chansons préférées. Ouais.
Expliquez-nous ce que c'est.
Alors,
cette grande artiste qu'on connaît pas spécialement par la musique. Hein,
non, Louise Bourgeois, c'est une de nos grandes sculptrices,
oui,
qui a enregistré à 84 ans, je crois, un tube total. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est très peu à le savoir. Que c'est
oui,
un
moi,
tube. J'avais
pas du tout.
Ça s'appelle Hot, O-T-E. Et ça a été, c'est sorti au moment de l'exposition masculin-féminin à Beaubourg. Et donc, je pense qu'elle a écrit. Enfin, elle est créditée pour les paroles. Après, il y a des histoires qui disent que c'est pas elle qui les a écrites, mais bon, elle est créditée pour les paroles et surtout c'est sa voix et c'est absolument
cette vieille
génial.
Dame qui chante d'une façon étonnante.
C'est ça. La femme de l'anglot est une anglotte. La femme de l'amigo est une amigotte. Avec son pote, elle dansote. La chamotte est la femme du chameau. La crapote est la femelle du crapaud. Ouhou. Il bouquine, elle bouquinote. Elle souffrote.
C'est ça.
Pour son pote, elle est idiote. Il joue à la bourse, puis elle boursicote. Il cuisine, et puis elle popote.
C'est ça.
Il découvre. Par exemple, il découvre un vaccin, il découvre et elle dégote.
C'est ça.
Il parle, elle parlote. Alors, il tousse, puis elle toussote. Et alors quand il siffle, n'est-ce pas, il siffle comme un merle, et puis elle sifflote. Et alors on entend le merle qui sifflait dans les arbres, elle sifflote.
C'est ça.
J'ai dit, je vous répète, il vit, elle vivote. Sans dot. Elle se fagote et se chapote et sa culotte comme une cocotte. Charlotte l'idiote, elle vivote. Et puis alors quand il se sent bien, il vous touche, n'est-ce pas? Et puis elle touchote. Ça n'a aucun effet. Ouhou.
C'est ça.
Merci Marie Nimier de me faire découvrir cette petite merveille de Louise Bourgeois.
Ah oui, ça me met en joie. Ça me fait toujours penser, vous savez, ce débat sur savoir si écrivaine c'est joli ou si c'est pas joli ou si ça fait veine. Et la féminisation des mecs.
Vous êtes écrivain, écrivaine, auteur, auteur.
Alors, il y a un truc très bien, c'est romancière, mais maintenant.
Oui, c'est plus simple, ça existe depuis toujours
mais,
d'ailleurs.
Au départ, j'aimais pas du tout écrivaine, parce
moi,
que,
pas trop,
voilà, vous avez froncé le nez, comme je le faisais, et puis finalement, dis, mais quelle stupidité, parce que, on dit oui, dans écrivaine, on sent vaine, la vanité, mais alors
oui.
Dans écrivain, on
n'écrit
pas
aussi,
vain,
oui,
on n'entend pas vain. Et donc, voilà, écrivaine, auteur.
Auteur.
Allons-y.
Bien. En tout cas, donc voilà, après ces années de théâtre, de rue, de spectacle, d'aventures diverses et variées, vous nous l'avez expliqué, vous vous êtes concentré sur votre métier de romancière.
Qui n'était pas encore un métier, c'était un peu un sauf qui peut. Hein, voilà. C'était vraiment ce besoin de silence que j'avais.
Avec La Sirène, pardon, en 1985, chez Gallimard, votre premier roman. Et malgré tout... la musique est revenue assez vite dans votre vie d'écrivain parce que deuxième livre très remarquable, La Girafe, et troisième livre tout de suite, Anatomie d'un cœur.
Ah oui, parce que c'est vrai que je chantais aussi dans des chœurs. Enfin tout ça, on compresse un peu le temps, mais j'ai chanté les grandes œuvres, les Requiem, et dans des grands chœurs dirigés par Michel Picmal. Et j'ai adoré faire ça, et je m'y suis plongée de façon aussi passionnée que je me suis plongée dans les livres de la Bibliothèque Nationale. Pour moi, c'était un peu la même chose, quoi. C'est des espèces de pertes, de se perdre dans les multiples voies. C'est comme si le corps s'agrandissait et devenait beauté. J'ai beaucoup aimé.
Mais au point d'écrire tout un livre sur la vie, le travail d'un cœur, et avec pour point de départ une histoire vraie, un vrai compositeur qui est Alcan,
oui.
Cet extraordinaire pianiste qui est au cœur de ce livre. C'est un roman.
Mais en fait, il se passe des choses terribles dans cette chorale. C'est une histoire d'amour, c'est l'histoire d'une famille dans une chorale avec. Il y a deux familles finalement. Il y a celle du chef de chœur hein, qui lui est le petit-fils de cet Alcan, du compositeur
Charles Valentin Alcan,
qui était quand même un drôle de zozo.
Oui, écrasé par sa bibliothèque. Oui, vous le rappelez d'ailleurs dès le début du livre.
Dans si on cherche un peu, parce que j'ai quand même été chercher, alors on a sur les papiers officiels, c'est accident domestique.
Accident domestique, voilà. Les musiciens assez génial d'ailleurs.
Génial.
Et alors, je n'avais pas lu le livre quand j'ai découvert ce livre, si j'ose dire, à travers un spectacle que vous avez monté. Par la suite, alors, d'après le cœur.
Vous savez, le salon du livre, salon de livre et musique
à Deauville, oui.
À Deauville, formidable, et ils font des soirées d'ouverture, comme
ça,
ils demandent...
c'était juste une adaptation de circonstances,
de circonstances, on avait, avec Michel Picmal et une partie de son cœur, on avait fait une lecture musicale, d'extraits du livre.
Et Alcan, vous étiez tombé dessus, comment?
Vous voulez vraiment savoir?
Oui.
C'est parce que c'est assez drôle. Écoutez, c'était une association de mots. Je cherchais un compositeur, ou je cherchais à inventer un compositeur. J'avais à peu près toute la structure du livre, mais je butais sur cette histoire de compositeur parce que je suis pas assez calée en musique pour en inventer un. Et j'ai vu à la télé, c'était l'émission Océanique, il y avait Lacan qui parlait, qui faisait une conférence, une retransmission d'une de ses conférences en Belgique. Et à un moment, il disait « La mort est du domaine de la foi !» Et ça m'avait complètement bouleversé cette phrase, et j'avais vraiment écouté ça, Et puis ce Lacan, donc, qui était dans ma tête, tout d'un coup, il a ricoché sur un autre, quelqu'un d'autre, qui s'appelait un peu comme ça. Je suis allée chercher dans mes programmes de musique, parce que je garde les programmes de théâtre et de musique, et j'ai retrouvé trace d'un petit concert au théâtre... non, c'était pas dans le théâtre, c'était dans un musée, un concert de ce compositeur dont j'avais oublié, enfin soi-disant oublié le nom, qui était donc Alcan. Donc Lacan.
Alors, il faut dire qu'Alcan, il a écrit des œuvres extraordinairement belles et virtuoses, notamment de musique de chambre, piano, violoncelle, etc. Et puis il a écrit une œuvre très, très bizarre. Hein, qui est cette marche funèbre pour la mort d'un perroquet
oui.
Que vous reprenez d'une autre façon dans votre livre.
Dans le livre, j'ai dit que c'était d'un nénuphar,
la mort d'un
parce
nénuphar,
que comme ça,
voilà.
Je pouvais prendre des libertés avec la partition.
Voilà. Mais vous nous l'avez apporté, cette marche funèbre sur la mort d'un perroquet, où il parle à Jaco, d'ailleurs.
As-tu donc mangé Jaco? Mais de quoi? C'est absolument...
C'est curieux qu'il ait fait ça, quoi.
Totalement loufoque. Hein. Ça avait l'air d'être quelqu'un à la fois très sérieux, qui écrivait de la musique religieuse, qui était un grand virtuose, un grand pianiste. D'ailleurs, il avait inventé quelque chose. Enfin, quand j'ai cherché un peu dans les partitions et tout ça, inventé, je ne sais pas s'il a inventé, vous allez me le dire. Et la troisième main, c'est-à-dire faire... il avait une telle virtuosité qu'il y avait comme la création d'une... Je dois expliquer très mal.
Non, vous le dites très bien,
pardon,
c'est exactement
pardon
ça.
Pardon pour les spécialistes.
Alors, écoutez...
Et donc, il était capable aussi d'écrire de grandes loufoqueries.
Voilà cette histoire du perroquet de Monsieur Alcan. Thank you.
thé, déjeuner, Jacob.
À thé, déjeuner, Jacob.
Extrait de la marche funèbre sur la mort d'un perroquet de Charles Valentin Alcan. C'était l'ensemble de ZE2M sous la direction de Paul Méfano. Marie Nimier, d'ailleurs, vous continuez à travailler avec les chœurs. J'ai vu sur Internet un chœur des vaches, par exemple. c'est parce que vous vivez en Normandie,
non ? Ah oui, j'aime beaucoup le chœur des vaches. J'aime beaucoup les vaches. On a écrit ça avec Michel Lascaux, qui est aussi écrivain et compositeur. Et c'est un prix qui a, c'est un, une œuvre qui a remporté un prix.
Mais avec me dans le cœur, hein, d'ailleurs.
Ça, c'est le refrain. C'est une histoire très triste de vaches qui vont être réformées à la fin de leur vie, ce qui est un mot pour dire qu'elles vont partir à l'abattoir.
Ça va finir, oui.
Voilà. Et on peut le voir sur Internet. Vous rentrez cœur des vaches, vous allez passer un bon moment.
En tout cas, vous qui avez grandi rue Jean Mermoz, au cœur de Paris, qui êtes par ailleurs la fille d'une figure du monde littéraire parisien, vous avez choisi de partir déjà depuis pas mal d'années pour vivre, on peut dire, à la campagne.
On peut dire, oui, je vis à la campagne. Vous savez, c'est un peu difficile, c'est même très difficile quand on a choisi d'être seulement écrivain.
Oui.
De vivre de sa plume, comme j'ai jamais eu d'autres métiers, j'ai jamais eu de métier alimentaire.
Il faut le dire, c'était pas si fréquent que ça dans ce.
Donc il faut décider d'une vie économique. Ouais. Alors maintenant c'est très à la mode. Là, il y a 20 ans, ça l'était moins. Les gens me regardaient avec des grands yeux. Mais c'est vrai que j'ai vivais avec trois fois rien là-bas, avec mes enfants, et puis avec de l'espace pour les enfants et
voilà.
Et voilà.
Et vous aimez bien parce qu'il y a aussi les vaches.
Et il y a de moins en moins de vaches. Mais...
En tout cas, donc je le disais, après plusieurs romans et d'ailleurs. Beaucoup de succès, vers 2002-2003, tout d'un coup, on vous voit commencer à signer plein de chansons. Alors, comment ça s'est passé, ce virage ?
C'est en fait une rencontre, tout peut se raconter par des rencontres, en fait. Une rencontre avec Jean Rouault, qui était lui-même ami avec Pierre Charvet, que vous connaissez bien ici.
Évidemment, à France Musique.
Pierre était sollicité pour écrire une musique de film, des chansons pour un film. Et donc, Jean Rouault n'avait pas envie d'écrire les paroles de cette chanson tout seul. Il m'a demandé, est-ce que tu veux qu'on le fasse tous les deux, et pourquoi pas. Pour ça, on a eu un rendez-vous chez Universal Publishing, donc une maison d'édition bien connue, la musicale. Et puis, on a signé, ils nous ont signé. Ce qu'on a, on dit être signé comme un artiste finalement.
Ah oui,
des paroliers,
c'est pas seulement
être
pour les chanteurs
signés.
On peut comme parolier être signé par une grande maison comme Universal et produire de la chanson comme ça, et alors, puis qu'ils distribuent à leurs artistes ensuite en fonction
ils
de
ils
leur...
vous testent d'abord, alors ils vous donnent des tonnes de musique comme ça, et puis il faut mettre des paroles. Et nous, je sais pas, on a pris ça comme un défi avec Jean Rouault. Je pense que ça le reliait aussi à des choses de son adolescence, puisqu'il lui aussi écrivait des chansons et chantait quand il était bambino. Et Et on s'y est mis, mais à fond, on a adoré faire ça. Et la vraie grande première chose qu'on ait faite, je crois, c'était pour un album de Jean-Guy Donny. Ça, ça a été vraiment un investissement, c'est-à-dire d'écrire tout un album pour un artiste. Finalement, il y a peut-être la moitié des chansons qui sont de nous sur l'album, mais ça a été formidable. Et là, on a travaillé avec Daniel Lavoie comme compositeur, et lui était à l'autre bout, au Canada.
Au Canada, bien sûr.
Et c'était exaltant, quoi. C'était vraiment extraordinaire, parce qu'on avait un grand artiste qui était... Enfin, c'est le meilleur moment pour moi, enfin, meilleur souvenir comme ça de composition, et de pouvoir écrire plusieurs chansons pour un même artiste sur un même album, c'est-à-dire raconter une histoire, mettre des matières différentes, c'était magnifique, c'était formidable, vraiment formidable.
Un autre artiste qui est arrivé assez vite, d'après ce que j'ai pu lire, et avec qui vous avez beaucoup travaillé, c'est Armengo, enfin je sais pas comment on dit,
oui,
alors
Michel Armengo, Artmengo, bon, qui est lui-même donc chanteur, mais avant de chanter nos chansons, il a aussi composé des musiques sur nos textes, et dont un texte qui a été chanté par Juliette Gréco. Ça, c'était aussi une grande rencontre.
Mais vous préférez dans quel sens ? Alors, faire des paroles sur une musique ou faire...
Alors, pour Artmengo, lui, il veut des textes. Il part toujours du texte. Du texte. Et ça lui dit ou ça lui dit pas, quoi. Donc, on sait jamais. Voilà, on envoie. Et puis, souvent, il a fait la musique et il nous le dit pas non plus.
Ah oui, d'accord.
La communication est assez poétique avec lui. En tout cas, les résultats sont toujours magnifiques.
Bah, moi, j'en ai choisi une qui me plaît beaucoup. Vous pouvez peut-être nous l'expliquer en deux mots, encore que la chanson s'explique elle-même. Enfin, elle a un peu une histoire. Lettre à Milena.
Ah oui, bah, c'est clin d'œil, enfin, plus que clin d'œil à Kafka. Et ça, c'est une chanson que Artmengo chante lui-même sur scène et avec beaucoup de talent. Donc, inspiré de la correspondance entre Franz Kafka et Milena.
Et celle-là, vous l'avez coécrite avec Thierry Illouz.
Oui.
Qui est celui avec qui vous avez fait le plus de chansons.
Après Jean Rouault, j'ai commencé à écrire avec Thierry.
Vous avez sans doute mieux à faire que de lire, je le sais, mes lettres ordinaires. Vous avez, il est vrai, mieux à faire de vos nuits que de lire sans arrêt mon visage qui s'écrit. Mais permettez, madame, cet aveu déchirant, je suis sous votre charme. Petit enfant, il disait, dites-moi au moins d'une fois, alors je serai comme le plus heureux des hommes. Dans cette intimité seule connue de nous, vos lèvres de papier sauront me rendre fou. Si le sommeil me fuit, si j'ai peur de dormir, c'est qu'au fond de mon lit, c'est la mort qui soupire. Il disait, arrêtez de m'écrire chaque jour. Ce que vous me donnez pour moi est bien trop lourd. Chaque mot que je trace, chaque mot que je lis, porte en lui la menace de rester incompris. Vos lettres me font peur, leur bonté m'exaspère, vos rêves de bonheur sont des fruits trop amers. C'est ainsi, je ne sais pas y faire. J'aurais vécu ma vie comme un célibataire. Permettez-moi, madame, de me terre aujourd'hui, je vous laisse mon âme et je reprends mes nuits.
Art Mango, lettre à Milena, une chanson de Marie Limier et Thierry Illouz. Très jolie chanson de l'album La Vie de Château, c'était en 2003. Vous vous voyez toujours? Vous avez toujours des projets avec Art Mango, puisque c'est son...
Oui, je l'ai vu le mois dernier. Ah, oui. On a toujours envie de faire beaucoup de choses ensemble et puis... Je sais pas, les choses mettent longtemps, hein. C'est-à-dire qu'on a des belles chansons, on a des belles chansons dans les tiroirs. Ouais. Je pense qu'elles seront chantées un jour, mais voilà, c'est pas...
En tout cas, il y a des fidélités. Hein. On a parlé de Clarica, qui est une proche aussi, à la fois comme interprète et comme co-auteur. Il y a Enzo, on peut citer
Enzo,
aussi.
Alors Enzo, elle a fait un truc formidable, c'est qu'elle a repris plein de chansons que j'avais écrites ou co-écrites, et elle en a fait un cabaret où elle les interprète génialement. Elle a
avec
une
que
voix...
du Marie Nimier.
Marie Nimier et compagnie, co-auteur. Et en prenant des extraits de romans ou des extraits de nouvelles qu'elle tisse entre les chansons, avec mise en scène d'Isabelle de Botton, et ça a tourné avec deux musiciennes en plus, splendides, violoncelle et pianiste classique. Ouais. Donc, un son incroyable, ouais. D'une beauté. Moi, j'étais tellement contente d'entendre ces chansons, d'entendre une heure et de chansons qui ont été écrites ici et là, avec des histoires de commandes parfois, ou des musiques imposées, ou au contraire, qu'elles ont chacune des histoires différentes. Et puis tout d'un coup, on sent que on a quand même un style, on a quand même quelque chose qui relie les chansons les unes aux autres.
Vous pensez, quand vous écrivez le texte d'une chanson, parfois à celui ou celle qui va la chanter?
Ah oui, absolument. Oui. Et parfois, elle n'est pas chantée par la personne pour qui on l'a écrite, mais oui, c'est bien.
Elle écrite pour quelqu'un.
Moi, j'aime bien me mettre dans la voix de quelqu'un. Et c'est cette même chose que de chanter dans un cœur. C'est s'abandonner, quoi. C'est aller vers l'autre, écrire pour l'autre, écrire pour la voix de l'autre, le corps de l'autre.
Une autre rencontre, alors, à travers la chanson, qui est devenue aussi une histoire amicale, je crois, c'est Juliette Gréco.
Oui, c'est une belle, belle, belle histoire. Oui, au début, j'étais tellement intimidée. La première chanson, elle a choisi de chanter cette chanson avec une musique encore d'Art Mango, une parole avec Jean Rouault. S'appelait Pour vous aimer, et puis elle l'a enregistré. Puis
en
elle
2003,
m'a
ça, oui.
Convoqué à la fin de l'enregistrement pour l'écouter. Ouais. Et donc je l'ai vue apparaître, elle a ouvert la porte du studio. Petite Marie, je viens de vous assassiner. Elle était très maquillée, elle m'avait impressionné beaucoup. J'étais vraiment toute petite. Et elle avait magistralement chanté cette chanson. Et elle m'a dit, vous avez d'autres choses, petite Marie. Elle m'appelle toujours petite Marie. Il faut dire que je mesure quand même 1m75, donc voilà, juste pour... Elle m'a toujours appelée petite Marie. Et donc, elle me demandait à chaque fois, vous avez des choses pour moi. Et jusqu'à plus récemment, où elle a fait tout un album de chansons sur le thème des ponts de Paris. Ouais. Et où petite Marie a été chargée d'écrire un texte sur le pont Marie. Elle m'a dit, petite Marie, écrivez un texte sur le pont Marie.
Mais c'est une chanson terrible, un peu autobiographique d'ailleurs, parce que vous avez eu des moments de grande mélancolie où vous avez eu vous-même...
Des tentations,
de vous jeter d'un pont.
Que j'ai connu cette chose-là, d'avoir sauté d'un pont.
Vous en parlez dans La Reine du Silence d'ailleurs.
Et j'en suis pas fière, hein, mais bon voilà, c'était un moment où je pensais que c'était fini. J'étais très jeune j'avais l'impression que je pouvais plus aller plus loin. Et dans cette chanson, donc c'est une chanson totalement autobiographique, et c'est pas mal aussi, c'est assez marrant de penser qu'on parle beaucoup de fiction et d'autobiographie ou d'autofiction dans les livres.
Ouais.
On en parle peut-être moins dans les chansons quand c'est quelqu'un d'autre qui écrit pour un artiste, hein. Ouais. Mais là c'est drôle, c'est une espèce d'autobiographie que je mets dans la bouche
de Juliette Gréco. Parle, du coup.
Et donc c'est Juliette Gréco qui engueule la jeune fille que j'étais et qui dit mais le pont Marie, petite Marie, c'est pas fait pour sauter, c'est fait pour traverser.
Voilà, et c'est une très belle idée. Voilà, on l'écoute tout de suite, Juliette Gréco.
Le pont Marie, petite Marie, c'est fait pour traverser, pas pour sauter, petite Marie. Le pont Marie, très beau, très beau, île Saint-Louis,
pierre taillée. Pas pour sauter, pour traverser. Tu as compris. Ça nous bouleverse, ça nous renverse. Même moi, j'y tiens. Le pont Marie, petite Marie, c'est pour aller de l'une à l'autre, de l'autre à l'un, pas pour sombrer, pour se trouver, pour se serrer, pour s'embrasser. Je vais boire une à une les gouttes sur tes joues, jusqu'à ce que tu trouves ma chanson à ton goût. Petit bouillon salé, souvenir du Japon, je vais te faire rêver, on part et pour de bon. Tu verras, ça ira, tu vas bientôt l'aimer. Ce pont du souvenir, tu vas le décorer d'un sourire victorieux. Ce sera mon cadeau. C'est ça les ponts, Marie. Ça se traverse, c'est beau. C'est ça la vie, Marie. Ça se traverse et c'est bon.
Le pont Marie, Juliette Gréco en 2012, une vraiment belle chanson.
Ouais,
Marie
puis alors quand elle est sur scène, ouais. Oh, mais qu'elle chante ça. Et vous êtes dans la salle, je vais vous dire, vous êtes vraiment petite.
Oui, non, c'est magnifique. Et vous parlez à vous-même par la voix de Juliette Gréco. Ici,
oui, c'est un grand
luxe.
C'est
très, très extraordinaire. En tout cas, à propos de la Seine, tiens, on sait que la Seine coule et coule en passant pas très loin de votre coin, en Normandie, près du Vaudreuil. Et puis encore plus loin, on arrive
au Havre. D'où je viens, ou au Havre d'où je viens.
Voilà, moi j'ai grandi là-bas. Vous y allez beaucoup en ce moment, je crois.
Oui, parce que j'ai été sollicitée par les commerçants du Havre pour fêter les 500. Les 500 ans, le 500e anniversaire du Havre.
Voilà, où il y a des quantités de manifestations littéraires,
oui,
artistiques diverses en ce moment.
Surtout plastiques, oui. D'ailleurs. Oui. Mais c'est, les commerçants ont demandé à des écrivains, à une bande d'écrivains, qu'on s'est nommés les vitriers, d'écrire des textes courts, inspirés de leurs témoignages, et qu'ils mettent sur leur vitrine, mise en scène, mise en forme, de façon très, très intrigante et très belle, par une graphiste. Et donc, on a écouté les commerçants, et avec...
Ils racontent des anecdotes, en fait.
Des anecdotes, voilà. Et aussi pourquoi ils sont arrivés au Havre, l'histoire de leur ville, comment ils se sentent dans leur ville, comment ils se sentent dans leur magasin. Et parmi ces écrivains, il y a Camille Laurence, Olivia Rosenthal, Thierry Louze,
Marine Diaye,
Sylvain Prudhomme, Kofi Kouaoulé, enfin j'espère que j'en ai.
Lydie Salver,
Isabelle Letellier.
Vous nous en lisez un petit?
Ah oui, pourquoi pas.
Un texte d'un. Alors ce sont donc.
Donc là c'est Velasquez Coiffure, donc c'est.
Velasquez Coiffure.
Rue de Paris, au Havre. C'était l'année du Tour de France, il y a 22 ans. Je travaillais ici depuis 3 ans avec le même patron, on est du genre fidèle dans la maison. Ce jour-là, j'étais souffrante, j'avais beaucoup de mal à respirer, mais je suis quand même sortie de mon lit, parce que c'est ça le commerce, on fait pas fou bon. J'avais téléphoné à un médecin pour qu'il passe au salon. Le voilà qui arrive, petit complet impeccable, coiffure soignée, petite valise, plutôt jeune. Je file au sous-sol et je lui fais signe de me suivre. Je me déboutonne, j'enlève mon chemisier, et pas question de traîner, j'ai une cliente qui m'attend au bac. Je suis torse nu, quand je lève la tête... Il est rouge comme une pivoine. Ah ben je me dis, mon gars, si tu rougis comme ça à chaque fois que tu vois les seins d'une patiente. Je souris pour le mettre à l'aise. Je m'approche. Il prend sa mallette et remonte dardard. Il pose des échantillons de shampoing près de la caisse, alors je comprends mon erreur. C'est un représentant. Je ne l'ai jamais revu. Je pense à lui souvent. Le Tour de France est repassé par ici il y a 2 ans. Tout le monde disait qu'il fallait fermer le salon, mais moi j'y suis allée quand même. Il n'est pas revenu. Bon, pas grave. Ce sera pour les 40 ans du Tour. Ou pour les 500 ans du Havre, qui sait. Il lira ses mots, il poussera la porte, et on verra bien.
Voilà, un de ses textes, donc, il compose un livre paru chez Gallimard, donc, qui s'intitule « Petit roman du Havre ».
Il y a le livre chez Gallimard, très élégant, avec plein de petits textes comme ça, de petites vignettes, de petites inspirées des récits des commerçants. Et puis, il y a les textes sur les vitrines pendant tout l'été, pendant 4 mois, vous pouvez aller les voir.
Le Havre, cette ville qui a longtemps été considérée... comme une ville très laide et qu'aujourd'hui tout le monde aime finalement.
Ah bah tout le monde adore, ouais. Hein, et moi en premier.
Il y a une poésie du Havre pour vous?
Plus qu'une poésie. Poésie, ça fait, c'est un peu condescendant, je trouve. Il y a une poésie du Havre. Non?
Oui. Enfin, non.
C'est le repenti, quoi. C'est celui qui a détesté la ville et qui l'aime maintenant. Non, moi j'ai toujours. Enfin, non, c'est pas vrai. C'est vrai que la première fois qu'on arrive au Havre, parfois on est un peu. S'il pleut et s'il n'y a personne dans les rues. Mais c'est une ville, c'est la mer, c'est les lumières. Il y a ce musée que j'adore, le MoMA, qui est vraiment. Très très beau, et puis en ce moment, avec les festivités, vraiment c'est le moment d'aller découvrir cette ville dynamique, musicale,
et
poétique.
Et qui a inspiré plein de chansons
et
dans le passé.
Et voilà.
Également, avec notamment Macorlan qui aimait beaucoup le Havre. Alors on va en écouter une, la chanson de Margaret.
Ah très bien, le quartier Saint-François.
Vous connaissez bien,
bien
par Germaine Montero.
C'est rue de la Crique que j'ai fait mes classes, au Havre dans un star tenu par Chloé. C'est à Tampico qu'au fond d'une impasse, j'ai trouvé un sens à ma destinée. On dit que l'argent c'est bien inodore, le pétrole est là pour vous démentir. Car à Tampico quand ça s'évapore, le passé revient qui vous fait vomir. Oui j'ai laissé là mes joues innocentes, oui à Tampico je me suis défleurie. Je n'étais alors qu'une adolescente, beaucoup trop sensible à des tas de profits. Les combinaisons ne sont pas toujours bonnes, comme une vraie souris j'ai fait des dollars. Dans ce sale pays où l'air empoisonne, la marijuana vous fout le cafard. On m'encourageait, j'envoyais de drôles, je vidais mon verre en fermant les yeux. Quand j'avais fait le plein, je voyais le pactole et les connaisseurs trouvaient ça curieux. Une fille de 20 ans, c'est pour la romance, et mes agréments semblaient éternels. Mais par-ci, par-là, quelques dissonances en ont mis un coup dans mon arc-en-ciel. C'est là que j'ai laissé derrière les bouteilles le très petit lot de mes petites vertus. Dans les matelots qui n'aimaient que l'oseille, on a tant fait voir que je me reconnais plus. Oui, il m'a fait voir le ciel du Mexique et m'a balancé par un beau printemps. Parmi les cactus dans le décor classique, où le soleil vous tue comme à vous portant. Un coq shanghaïé, un soir de folie, a pris mon avenir de même qu'un cadeau. Il m'a dit, petite, il faut qu'on se marie, tu seras la fleur d'un joli bistrot. De tels boniments démolissent une femme, je me voyais déjà derrière mon comptoir. Les flics de couleur me disaient, madame, bref, je gambergeais du matin au soir. Mon Dieu, ramenez-moi dans ma belle enfance, Saint-François au bassin du roi. Mon Dieu, rendez-moi un peu d'innocence et l'odeur des quais quand il faisait froid. Faites-moi revoir les neiges exquises, la pluie sur Sanvic qui luit sur les toits. La ronde des gosses autour de l'église, mon premier baiser sur les chevaux de bois.
Et Germaine Montero, en 1957, dans la chanson de Margaret, une évocation d'une fille du Havre, hein, voilà, qui est partie loin, et mise en chanson donc par Mac Orlan. Il en a fait beaucoup dans ce genre-là, d'ailleurs, Marie Nimier. Et vous-même, eh bien, vous continuez à faire des chansons. On n'a pas évoqué toutes vos chansons. Hein,
il y en a beaucoup, beaucoup.
Vous en avez écrites même pour... Pour des rockers, des vrais, du temps de votre petite enfance, Eddie Mitchell, oui, Johnny Hallyday.
Je sais pas s'ils aimeraient que vous les définissiez comme des rockers de mon enfance, mais enfin bon, ils étaient déjà là, oui, c'est vrai. Johnny Hallyday, ça classe quand même.
Ah oui, oui.
Eddie Mitchell aussi, elle fait une très belle chanson avec des guitares incroyables, une chanson qui s'appelle Palomador, co-écrite avec Thierry aussi. Johnny Hallyday, c'était chanter n'est pas jouer. C'était l'idée que, enfin, c'était cette idée qu'on avait eue que le seul moment où il était vraiment lui, c'était quand il était sur scène. Le moment où il ne jouait pas, où il était complètement lui. Et je le crois assez parce que c'est vrai qu'il a une présence tellement incroyable sur scène que on se dit que là, il mobilise toutes ses forces et qu'il est lui-même. Et que sinon, ben voilà, la chanson raconte en tout cas qu'il va chercher de ses nouvelles dans les pages des journaux.
Et voilà. Puis visiblement, la chanson qui vous a beaucoup occupé ces dernières années, depuis une quinzaine d'années, ne vous suffit plus. Vous avez besoin aussi de la danse, de toute forme de spectacle auquel vous pouvez vous associer par vos textes.
Oui, tout ça, encore des histoires de rencontres. Donc une histoire de rencontre avec Dominique Boivin, un chorégraphe qui a donné un spectacle qui s'appelle « À quoi tu penses ?» et qui c'était les pensées des danseurs. J'ai écrit des petites nouvelles, en fait des monologues, qui étaient les pensées des danseurs pendant qu'ils dansaient.
Donc, il en est sorti d'ailleurs un livre qu'on trouve en folio, notamment, qui s'appelle « Vous dansez »,
hein,
voilà, cette série de textes. Mm-hmm. Il y a d'autres choses que vous aimeriez faire, je sais pas, écrire un livret d'opéra, une comédie musicale.
Ça, j'adorerais.
C'est
un livret d'opéra, j'adorerais, oui.
C'est vrai.
Je sais pas comment on fait. Alors, j'attends la rencontre, peut-être.
Faudrait rencontrer un compositeur, peut-être, ou un directeur d'opéra.
En sortant du studio, là, je compte sur ma bonne fortune. Ouais, j'aimerais beaucoup. C'est quelque chose qui me... Parce que c'est ça, c'est comme la chanson. Il y a besoin de concision. C'est-à-dire qu'il faut raconter quelque chose quand même, être dans l'émotion, dans la vérité, dans l'humanité, raconter quelque chose, mais en très peu de mots. Et l'opéra est une forme intéressante pour ça.
Donc on peut dire, Marie Nimier, que pour les années à venir, vous avez envie de continuer cette double vie d'écrivain solitaire et de femme de spectacle en tout genre.
Mais un spectacle, un peu caché. Je suis assez contente quand je suis un peu cachée quand même, je suis un peu derrière. Quand
auteur.
J'écris pour les autres.
Voilà. Et puis, on pourra d'ailleurs vous applaudir, je crois, à Avignon.
Oui, pas moi, Isabelle de Botton qui va interpréter les textes de La violence des potiches, qui est un livre qui a été publié chez Actes Sud l'année dernière, qui est une succession aussi de monologues, de courts monologues pour des femmes. Et donc, elle va jouer tout le mois de juillet en Avignon au Pixel Théâtre, Théâtre Pixel, je ne sais plus. Voilà.
Des textes de Marie Nimier.
Des textes de Marie.
Là encore. Et on va se quitter avec encore un des premiers chanteurs que vous nous avez cité dans ce parcours de la chanson, c'est Jean-Guy Denis.
Ah, formidable.
Que j'ai eu le grand plaisir de recevoir il n'y a pas très longtemps pour la sortie de son nouveau disque. Vous avez écrit donc pas mal de chansons pour lui. Hein.
Oui, avec grand, grand bonheur et souvent des chansons inspirées par ses récits.
Et en fréquentant lui, contrairement à d'autres.
Alors là, c'était une vraie association, un vrai bonheur de travail.
Et cette chanson, Le Miroir ?
Alors, Le Miroir, c'est plus une blague, hein, un petit peu une blague, vous allez entendre ça, mais il y a d'autres chansons dans l'album qui sont très prenantes, peut-être moins drôles.
Voilà, pour finir, je me suis dit que c'était enlevé. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Marie Nimier.
Merci.
Et continuez de nous faire des belles chansons.
On va essayer.
Les reflets dans les vitres ne sont pas toujours tendres. De peur qu'ils me détrompent, j'ai dressé mon miroir. À voir ce que j'avais envie de voir. À me dire sincèrement ce qu'il me plaît d'entendre. Je me présente devant lui en parésie. Il se brouille un peu, prend son temps pour réfléchir. Son regard me glace, je m'attends au pire. Et voilà qu'il m'embrasse, comme embrassent les filles. miroir se moque du temps. Quand je rentre au matin, il me fait une sale gueule. Il prend un teint vitreux, j'adopte un ton cassant. Je nous menace d'un malheur de 7 ans. Trop bête, on efface tout d'un coup de chiffonnet. Qui sait le plus beau? C'est toi, mon beau. Qui sait le plus grand? C'est toi, mon grand. Qui sait le plus fort? C'est toi, mon trésor. Mon miroir n'est pas contrariant. Mon miroir se moque, se moque, se moque du temps. Un jour il est possible que mon miroir s'arrête, s'arrête de refléter. Je lui rendrai sa liberté. Je passerai alors de l'autre côté. Un ange offrira mon miroir aux alouettes. Un ange offrira mon miroir aux alouettes.
Jean Guidoni dans le miroir, une chanson de Marie Nimier qui était mon invitée aujourd'hui. Je vous signale d'ailleurs que le site internet de Marie Nimier est très bien fait. Vous pouvez retrouver toute la liste de ses chansons avec les dates et les interprètes. Et puis je vous signale donc la parution de son dernier livre en folio. Ça s'intitule La plage et également la parution chez Gallimard des petits romans du Havre dont nous avons parlé tout à l'heure.
Thank you.
cris de Méphisto depuis le fond des enfers. Méphisto's Hollen Roof, c'est le sujet de cette valse de Strauss, comme quoi on peut faire de la belle musique légère, même avec des idées noires. C'était un extrait du concert du Nouvel An 1995, dirigé par Zubin Mehta.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et puis tiens, je voudrais remercier les nombreux auditeurs qui m'écrivent chaque semaine. Je n'arrive pas à répondre à tout le monde, mais j'ai bien remarqué récemment ce message au sujet de Beethoven, ce fantaisiste musical, alias Michel Maurice Lévy, un message qui m'a apporté plein de précisions intéressantes. On fera sûrement toute une émission sur Beethoven à la rentrée prochaine. Je vous avais fait entendre donc, voici 15 jours, un petit pastiche musical. Je vous propose aujourd'hui une autre phase de 78 tours intitulée « Amour musical à travers les âges ».
L'amour musical à travers les âges, l'amour à l'âge d'or, faune, nymphe et flûte, chanson mythologique. Io péan, avec la flûte et la syrinx, le beau faune prend son élan, le dieu Pan a des pattes au lieu de pieds, il a des pattes Pan, les pattes à Pan. Patapan, 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 patapan. Il veut charmer l'ornithorynx. Le satyre fait des épates. La nymphe est la plus friponne. Un tel escope, un tel épate, un tel égramme, un tel est faune. L'amour au temps des croisades, ou l'âge de la ceinture, en presque vieux français, dame voudra vous peloster. Chanson troubadour. Si madame le veut, pendant cette journée, je grimpe comme un preux, tant et plus pelostré. Ayez grand cœur pour moi, ô douce dame aimée. Serait votre doux roi si l'essier pelosté s'embouillonne en ma tête et me sent tout nerveux pour peloster votre être, ordonnerait mes yeux. S'il ne voulait m'entendre, j'irais le cœur brisé, donner mon amour tendre à la femme du plan vie. Et hop là! L'amour au temps du directoire, sans air, comme les mois sans huîtres, car les incroyables les avaient mangés, pas les huîtres, les airs. Chanson d'amour incroyable. Pour ta beauté, ô ma déesse, je veux épanouir mon queue, et je désire une caisse pour calmer ma bulle en ta deux, et à ta plan. La nuit, le jour, l'après-midi, je pleure tout à tout et je hie. Hélas, je ne peux plus domi. Domi, et mi fa sol la si. Et à ta plan. Pour toi, je veux qu'on cueille tout. Et tout et tout, tout la la et tout. Pour pouvoir goûter ton amour, tant pis. J'y ai jusqu'à 100 sous. Et à ta plan.
L'extraordinaire Beethoven s'accompagnant lui-même au piano sur ce disque 78 tours, Odéon, on y reviendra. Et je vous l'ai promis, avant de nous quitter, un petit tour d'horizon rapide des opérettes dans les festivals de l'été. Il n'y en a pas beaucoup, pas assez, mais il y en a quand même un peu. Je voudrais vous les rappeler. Le premier festival, chronologiquement, c'est celui d'Aix-les-Bains du 8 au 24 juillet avec La Vie parisienne, avec Ça c'est Paris, un spectacle de Pierre Sibyl, et avec 4 jours à Paris, l'opérette de Francis Lopez, dont est tiré notamment l'un des plus grands succès de l'époque, la samba brésilienne.
C'est la samba brésilienne qui permet aux parisiennes, sans avoir l'air d'y toucher,
chaque nuit de goûter les petits à côté du péché.
C'est la samba brésilienne, née d'une chanson païenne qui sent le moindre faux pas.
dans les bras d'un beau gars, vous invite aux ébats de la bande.
Dansez, 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 la samba. Dansez, dansez,
mais n'exagérez pas.
Hey, c'est la samba brésilienne qui permet aux parisiennes sans avoir l'air d'y toucher.
Chaque nuit de goûter les petits à côté du péché. Chaque nuit de goûter les petits à côté du péché.
C'est la samba brésilienne, née d'une chanson taïenne, qui sent le moindre trop fort.
Dans les bras d'un beau gars, vous invite aux ébats de la bande.
Dansez, dansez, dansez la samba. Dansez, dansez.
Mais n'exagérez pas.
Hey.
C'est la samba
brésilienne
sans avoir l'air
d'y toucher.
Chaque nuit de goûter les petits à côté du péché.
C'est la samba.
La samba brésilienne, extraite de 4 jours à Paris. Ça, c'était la version de Jacques Ellian en 1948. Et l'opérette tout entière, vous la retrouvez donc les 15 et 16 juillet au Festival d'Opérette d'Aix-les-Bains. Le festival le plus développé par son importance, c'est celui de Lamalou-les-Bains à partir du 28 juillet avec l'Auberge du Cheval Blanc, Méditerranée, Andalousie, La Chauve-Souris, La Péricole, Orphée aux Enfers, Au Pays du Soleil, La Vie Parisienne, La Fille de Madame Angot, Pomme d'Api, N'en Jetez Plus. C'est quand même extraordinaire à Lamalou-les-Bains. Et puis il y aura aussi La Mascotte, la merveilleuse opérette d'Audran, qui finit par cette chanson de Laurent Houtan, chanson politique qui se moque en fait d'un certain prince Laurent.
La chanson de Laurent Houtan.
Nous écoutons la belle enfant.
D'Amérique qui régnait à Piombino.
Le grand sage d'Amérique qui régnait à Piombino.
Pris soudain d'une colique, vient s'échapper subito.
Pris soudain d'une colique, vient s'échapper subito.
Cet animal exotique est, dit-on, des plus méchants. Aussi font voir la panique qui règne chez les habitants. Chacun se demande en tremblant.
Chacun se demande en tremblant.
Vous n'avez pas vu Laurent.
Vous n'avez pas vu Laurent.
Houtan !
Houtan !
Et tremblait-on pas comme ça, on le rattrape, on le rattrape. Et tremblait-on pas comme ça, on le rattrapera.
Et tremblait-on pas comme ça, on le rattrape, on le rattrape.
La jeune Zerline, une fillette qu'avait pas peur.
Cependant, la jeune Zerline, une fillette n'avait pas peur.
S'en fut seule à la sourdine au rendez-vous d'un sapeur.
S'en fut seule à la sourdine au rendez-vous d'un sapeur.
Mais hélas, à la nuit close, lorsqu'on la vit revenir, la petite avait l'air tout chose et ne cessait de gémir. Elle soupirait en pleurant.
Elle soupirait en pleurant.
Elle avait peut-être vu Laurent.
Elle avait peut-être vu Laurent.
Houtan !
Houtan !
Et la belle disait tout bas, on m'y rattrape, on m'y rattrape. Et la belle disait tout bas, on m'y rattrapera pas.
Et la belle disait tout bas, on m'y rattrape, on m'y rattrape. Et la belle disait tout bas.
La mascotte d'Audran à revoir donc au festival de Lamalou-les-Bains pendant tout le mois d'août prochain. Je termine avec les deux festivals Offenbach, le festival de Bruniquel avec notre ami Jean-Christophe Keck et Franck Tézan qui vous proposeront Orphée aux Enfers, fin juillet, début août, et puis à Étretat, le 3 et le 5 août, également festival Offenbach avec une rareté, les trois baisers du diable et encore quelques autres œuvres diaboliques comme le Diable boiteux de l'excellent Jean Français dont on fête cette année, vous le savez, l'anniversaire. Tiens, quittons-nous justement sur quelques notes de Jean Français. Le concerto pour piano de Jean Français avec Claude Français au piano, Jean Français qui dirige. Il n'est pas né il y a 100 ans, Jean Français, il nous a quittés il y a 20 ans. C'est l'anniversaire qu'on fête cette année et qu'on fêtera notamment au Festival d'Étretat. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine en public et en direct à l'abbaye de Cluny avec Guy Touvron et ses amis. Une émission spéciale bourguignonne pour Étonnez-moi Benoît. Venez nombreux samedi prochain. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Vous avez maintenant rendez-vous avec Philippe Venturini.